Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions militaires et aux conflits armés, podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker, consacré aux films ou aux séries de guerre, ou au moins qui ont trait à la guerre ou aux faits militaires, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir à nouveau le capitaine Tony Morin de l'Armée de l'air. Bonjour Tony.
Bonjour Alexandre.
Alors je peux rappeler que vous êtes venu plein de fois, en fait, dans plein de formats différents, mais notamment pour parler de films, surtout les Top Gun en fait. Vous êtes venu pour nous parler du premier Top Gun et du deuxième Top Gun. On avait fait une émission sur Star Wars aussi ensemble. Enfin bon, bref, de grands films plus ou moins liés au fait aérien, ce qui tombe bien parce que c'est aussi un de vos thèmes de recherche, puisque je peux souligner que vous avez coordonné, dirigé un livre collectif en 2021 paru à la Documentation française intitulé « Fait aérien, armes aériennes et culture » qui travaillait, enfin c'est un ouvrage collectif qui faisait suite à un colloque, mais qui travaillait cette question de l'interaction entre la représentation du fait aérien et de la guerre aérienne dans des diverses représentations culturelles.
C'est ça, exactement.
Alors, aujourd'hui, on est donc là pour parler d'une nouvelle œuvre qui était très attendue, je dois dire, qui est donc ce « Masters of the Air », alors qui est une mini-série, appelons ça, produite pour Apple TV, créée par John Shiban et John Orloff. Et alors pourquoi est-ce que c'était si attendu? C'est parce que c'est le pendant aérien de, le Band of Brothers Cinematic Universe, pour broder ce qu'on dirait sur Marvel. Mais donc on sait que Band of Brothers, donc série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, et évidemment ce chef-d'œuvre indépassable de la mini-série sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui avait ensuite été décliné en The Pacific, produit par les mêmes, sur la guerre du Pacifique. Et là, c'est le troisième volet, ce Masters of the Air, qui est basé d'ailleurs sur un livre de 2007, mais qui suit une escadrille aérienne, enfin le centième bombe groupe américain, basé en Angleterre et qui est donc un groupe de bombardiers qui vient frapper diverses cibles, mais notamment l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être on va revenir, c'est fascinant parce que c'est incroyablement ambitieux d'avoir décidé de faire une série et même un film, enfin de faire n'importe quoi sur les bombardiers. Parce qu'à la fois c'est incroyablement important et central dans ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale et en même temps, on peut le dire tout de suite, c'est un peu chiant. comme représentation picturale, c'est-à-dire c'est pas la bataille en Angleterre, c'est pas la chasse embarquée, enfin c'est pas la chasse, c'est pas des combats, c'est pas du dogfight, hein, y en a, mais fondamentalement c'est quand même des gros avions qui volent en ligne droite et qui lâchent des trucs et qui ensuite font demi-tour.
Au-delà de ça, oui, je pense qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un raid aérien qu'à un autre raid aérien de bombardier. Donc effectivement, là, on en parlera sûrement, la série essaye de renouveler un peu ça. Mais oui, sur le matériau de base, ce n'est pas quelque chose de facile. On en reparlera aussi, mais il y a eu...
Déjà, qu'est-ce que vous en attendiez et puis qu'est-ce qui vous a intéressé?
Alors, ce que j'en attendais beaucoup, parce que ça fait longtemps que je suis impatient de voir ce projet se concrétiser sur les écrans. Ça fait longtemps. Alors, Spielberg n'est pas le créateur ou le scénariste, ou il ne réalise pas d'épisode, mais il est producteur. C'est l'un des producteurs de la série, notamment toujours avec Tom Hanks. C'est un troisième dont j'ai oublié le nom.
Gary Goetzman.
Très bien. Et Steven Spielberg, ça fait longtemps qu'il en parle, ça fait longtemps qu'il dit qu'il veut faire quelque chose, une série ou un film, mais plutôt une série sur la 8e Air Force, donc c'est-à-dire tous les bombardiers de l'US Army Air Force. L'US Air Force n'existe pas encore à l'époque, mais de tous les bombardiers, en gros, les bombardiers stratégiques américains stationnés en Angleterre et opérant sur le front européen. Ça fait une petite dizaine d'années qu'il en parle et que la rumeur a continué pendant toute une dizaine d'années. Le projet a été repoussé plusieurs fois et finalement ça s'est concrétisé via Apple TV. Je sais plus combien ça a coûté, mais je crois que le projet était effectivement assez cher.
On peut signaler que c'est sur Apple TV en Angleterre, aux États-Unis et en France aussi, c'est notamment diffusé sur Canal Plus en France. Oui. Et le budget, je viens de le retrouver, je crois que c'est 250 millions de dollars quand même, ce qui est pas si mal pour une mini-série.
Ce qui est pas mal pour une mini-série, effectivement. Donc, moi, personnellement, j'attendais beaucoup cette série parce que Spielberg, c'est un réalisateur que je trouve toujours très intéressant, évidemment parce que j'ai bien aimé Band of Brothers, que j'ai pas revu d'ailleurs depuis depuis l'époque où c'était diffusé, donc début des années 2000. J'ai pas vu The Pacific.
Ça vieillit très 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 bien. Enfin, ça vieillit très pas bien. Du tout.
Peut-être.
Et revoir Ross en
David Schwimmer en capitaine sadique et incapable.
C'est super.
C'est une série aussi où on retrouve plein de nouveaux acteurs qui débutent. Je crois qu'on retrouve Michael Fassbender, James McAvoy, enfin des jeunes acteurs qui sont devenus aujourd'hui beaucoup plus connus, mais c'est intéressant de les voir beaucoup plus jeunes. Donc Band of Brothers, évidemment. J'ai pas vu The Pacific. J'ai pas vu The Pacific.
C'est un tort, enfin c'est très différent. Mais on en parlait, on a fait un épisode avec Michael Schur il n'y a pas si longtemps. Mais ça. Mais en même temps, on garde le charme de Band of Brothers. Mais en même temps, on parle. Alors certes, c'est les Marines, The Pacific, mais ça. Enfin, ça garde quand même un peu les mêmes ressorts, disons, que Band of Brothers, c'est-à-dire des fantassins qui sont les deux pieds là et qui tirent sur des ennemis. Et là, c'est pas ce qu'il y a.
C'est un peu différent. Il manquera plus qu'une série sur les marins, du coup, ou une série peut-être un jour sur la bataille de l'Atlantique ou sur la bataille du Pacifique.
Vous prêchez un convaincu, oui.
Ouais, en plus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent sur les écrans, donc je pense que ça serait plutôt pas mal.
Cela dit, si autant les raids de Bombardier, c'est déjà pas très très spectaculaire.
Ça peut être spectaculaire.
Mais autant, j'étais en train de penser à quoi ça ressemblerait à un truc sur la guerre navale de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est-à-dire, il y a un vrai problème de représentation dans l'espace de ce qu'est un combat naval hors de la portée de la vue, etc. Et ce serait un vrai souci. On peut le faire avec l'aéronaval, et ce serait intéressant de le faire avec l'aéronaval, mais au fond, ça revient à faire un film d'avion de chasse. Mais je ne sais pas s'il y aurait moyen de faire un truc très, très intelligible et spectaculaire sur la guerre navale. C'est une parenthèse, mais en tout cas, là, c'est quand même. Ils ont aussi choisi un morceau qui n'était pas facile. Il y avait un morceau facile à faire. Ça aurait été effectivement de faire un film de chasse, un énième truc sur la bataille d'Angleterre ou sur autre chose d'ailleurs. Et c'est pas ce qui a été choisi.
Non, c'est pas ce qui a été choisi. Alors, c'est pas la première œuvre qui parle du bombardement allié sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, des films sont produits par Hollywood et qui parlent déjà de cette campagne-là. Il y a un film qui est assez connu parce que on estime que c'est un peu lui qui a donné la naissance au terme blockbuster via son affiche. C'est le film Bombardier qui est un film de 43, je crois, et qui parle de pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui doivent former un escadron de bombardement. Je pense qu'on reviendra dessus, mais il y a eu un excellent film qui est d'un tout petit peu après la Seconde Guerre mondiale, qui doit dater de 47 ou 48. Le titre original, c'est 12 O'Clock High, et qui parle, je ne sais plus quel est le titre en français, c'est un film avec Gregory Peck et qui parle. En fait, on suit un général américain qui arrive en 1942 et qui doit remettre un peu sur les rails un escadron de bombardement américain qui obtient de très mauvais résultats, qui a un taux de perte énorme. Et il doit un peu le remettre, il doit le reformer, le rediscipliner, le rendre à nouveau opérationnel. C'est un très bon film que je trouve particulièrement moderne dans sa manière de traiter la question de c'est quoi un équipage de bombardier, c'est quoi une mission de bombardement, c'est quoi le leadership dans ce type de contexte. On voit assez peu de bombardements, on voit très peu de séquences de bombardements. Et d'ailleurs, les séquences qu'on voit, en fait, ce sont des stock shots, ce sont des extraits de véritables. Et le film le dit d'ailleurs, il y a un carton au début du film, il me semble, qui dit que les scènes de bombardement qu'on voit, ce sont de véritables scènes de bombardement qui ont eu lieu, qui étaient filmées par des équipes embarquées à bord des raids.
Alors là, donc on est dans un contexte quand même très différent. On est avec tous les moyens modernes et toutes les capacités du cinéma hollywoodien. Et on peut dire, alors je pense qu'après on viendra sur les facteurs limitants et sur les points plus négatifs, mais c'est très beau. Notamment, je trouve que les scènes en vol sont très très belles, très très élégamment cinématographiées, enfin photographiées, quoi. Avec aussi un vrai souci inintéressant sur les équipements. Et bon, disons-le, alors peut-être c'est le moment de donner un peu de contexte historique, c'est un film sur les B-17 Forteresse.
C'est ça.
Qui est un avion qui, de la vie générale, alors même si on pourra nuancer, ça a un peu changé quand même le cours de la guerre, parce que c'est un avion qui avait un rayon de bombardement qui était tel que ça a permis aux alliés de frapper le cœur de l'Allemagne, ce qui était nettement moins possible en sens inverse. Et qui par ailleurs a donné lieu, c'est aussi les avions qui ont fait tous les bombardements stratégiques, c'est-à-dire les bombardements de zone. Ça, mine de rien, le développement de cet avion, alors c'est vrai aussi pour la guerre du Pacifique, mais notamment en Europe, ça a eu une importance centrale dans la capacité des alliés à frapper le cœur du territoire allemand.
Oui, le B-17 qui d'ailleurs il a été conçu un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et l'US Army Air Force le présentait avant tout comme un avion de défense contre des armadas, contre des bateaux qui viendraient attaquer les États-Unis. Le programme B-17 a été vendu comme ça, mais oui, c'est un bombardier qui a eu un certain nombre de représentations dans la culture populaire. Quand on pense bombardement, enfin quand on connaît un peu le sujet et qu'on nous parle de bombardement stratégique sur l'Allemagne, on pense à ce B-17, à la fameuse forteresse volante.
Avec ce qui est présenté au début comme un truc révolutionnaire, c'est le pointeur.
Le Norden, sur lequel le film revient plusieurs fois.
Et alors ça,
la série. Le Norden qui était le viseur... soi-disant révolutionnaire, qui devait garantir aux bombardiers une très grande précision. Dans les faits, c'est un peu différent. Le bombardement stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, la précision... Alors oui, ils sont un peu plus précis que les bombardiers britanniques, mais enfin, j'ai plus le chiffre exact. Le rayon moyen de précision d'une bombe, d'un B-17, on est plutôt de l'ordre de la centaine de mètres, voire du kilomètre, que du mètre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra évoquer, parce que la série parle de ce dispositif, comme quoi c'est quelque chose d'absolument crucial pour les alliés, notamment quand il y a plusieurs scènes de crash dans la série, et à chaque fois il est bien question de détruire cet appareil pour pas que les Allemands s'en emparent et puissent le copier. Moi, il y a quelque chose, pour revenir sur le départ de la série, mon ressenti par rapport à elle. Moi, j'attendais beaucoup cette série parce que c'est un sujet qui m'intéresse, parce que Spielberg est un réalisateur qui m'intéresse. La question que j'avais, c'est, ok, on est en 2024, on va nous faire une série sur le bombardement stratégique sur la Seconde Guerre mondiale. Comment, en 2024, on va parler de ça? Comment une production de cette ampleur-là va me parler du bombardement allié sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Je dis, pourquoi faire ça en 2024? Et là... Moi, la série, de manière globale, elle m'a laissé un sentiment un peu étrange. De manière générale, j'ai globalement apprécié. Mais quand j'essaye de réfléchir à la série, à ce qu'elle me montre, en fait, j'ai plus de choses négatives à dire que de choses positives. Et parmi les choses négatives, il y a deux grands axes. Il y a les choses que la série me montre, les choses qu'elle montre et sur lesquelles j'ai des choses à redire, et les choses qu'elle ne me montre pas. Parmi les nombreuses choses qu'elle ne me montre pas, je trouve que avoir une série sur le bombardement en 2020 et ne quasiment jamais évoquer la position des populations civiles, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que on parle jamais de cet aspect-là de la guerre.
Il y a des moments, notamment où certains aviateurs sont capturés. Et on voit qu'ils sont à deux doigts de se faire lyncher par une population.
Ils sont plus qu'à deux doigts de se faire lyncher.
Ils sont lynchés, mais pas tous. Mais qui les qualifient de terroristes. Alors, d'ailleurs, l'appréciation de terroriste est tout à fait intéressante, parce qu'elle revient très régulièrement. Voilà, on sent bien que quand, et ça leur arrive à peu près à tous, ils finissent par se cracher, il ne faut pas trop traîner dans le coin ni compter sur la sympathie des populations locales. Au-delà de différences géopolitiques profondes, c'est aussi le fait que clairement les populations civiles n'ont pas eu de très bon image des pilotes de B-17, quoi.
Oui, et puis ça se comprend, mais c'est vrai que la caméra reste toujours assez éloignée de ça. Par exemple, on voit à un moment, il y a une scène, on voit Londres qui se fait bombarder, et la scène suivante, c'est un pilote donc, qui a vu ce bombardement de Londres, mais il était un peu éloigné, et on reste à distance des victimes civiles. Bon, il a une petite réflexion sur « Ah oui, c'est ça qu'on fait, nous, quand on bombarde. » Et puis, il y a cette scène que vous venez d'évoquer, où on nous montre la conséquence du bombardement, mais c'est difficile de rentrer en empathie avec cette population, puisque, comme vous dites, tout de suite après, elle se transforme en une foule qui va lyncher les héros. Donc, le sentiment est ambivalent. Et c'est toujours des Allemands. C'est toujours des Allemands. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'a un peu frappé dans cette série, c'est que les Allemands, c'est tous des nazis. Les Allemands dans cette série, c'est tous des nazis. C'est très difficile de rentrer en empathie avec eux. Il y a deux choses.
C'est un peu un trait commun du cinéma hollywoodien.
C'est vrai que c'est un trait commun du cinéma hollywoodien, en particulier du cinéma américain. Mais
les Allemands sont tous des nazis et les Français sont tous des résistants, toujours.
C'est vrai. Il y a un volet sur la résistance aussi, sur lequel on reviendra sûrement. Mais ouais, il y a ce côté. Les Allemands sont un peu tous des monstres, sont un peu tous des nazis. Il y a toute une phase, il y a tout un sous-arc de la série qui se passe dans un stalag. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au début, on nous dit, voilà, le camp de prisonniers, il est géré par la Luftwaffe. Et à un moment donné, on nous dit, ah bah ça va plus être la Luftwaffe, ça va être la Gestapo qui va venir gérer ce camp. Je vois pas la différence, moi, dans la série, entre le moment où le camp est géré par la Luftwaffe ou le moment où le camp est géré par la Gestapo. On essaye de nous en faire un petit enjeu. Mais en fait, concrètement, je ne vois pas particulièrement la différence.
Donc ça, c'est les parties qui sont absentes et elles sont réelles. Sur ce qu'il y a à redire, à retoucher, à pinailler, disons-le, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ça, et c'est aussi ça qui est agréable, c'est de voir... On peut dire, quand même, ce qui caractérise ce Band of Brothers Cinematic Universe, c'est quand même une très grande précision. Et une très grande fidélité. Et en général, ils représentent des gens qui ont existé, des appareils qui ont existé, et des actions qui ont existé. Et alors, c'est particulièrement net dans Band of Brothers et dans The Pacific aussi, je crois. Parce qu'ils font témoigner des survivants. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette espèce d'impodice où ils sont face caméra.
On voit leurs photos à la fin. À la toute fin de la série, on a un espèce de diaporama où il nous montre les personnages, donc l'acteur qui les a joués, oui, et le vrai personnage.
Et c'est super, et moi j'aime beaucoup ça, parce que ça permet de connecter. C'est un vrai truc de savoir que c'est des personnages qui ne sont pas totalement fictionnalisés. Alors je pense que c'est plus difficile en 2024 qu'il y a 20 ans, parce qu'il y en a moins, donc c'est peut-être plus difficile de les réunir.
Je crois qu'il n'y en a plus aucun dans les différentes personnes. Il y en a le dernier, je crois, est décédé il n'y a pas très longtemps.
Mais parce que c'était hyper puissant, quoi. C'était un effet de réel fou. Dans Band of Brothers, c'est rescapé de la 82e division aéroportée qui témoigne et qui raconte un peu. C'était un effet quasi documentaire qui était incroyable. Là, on l'a plus, même si c'est un peu rattrapé, enfin, c'est un peu contourné à la fin. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur du grand show hollywoodien qui s'affranchit complètement et qui fait un truc délirant. Qu'est-ce qui, dans le détail, vous a un peu chiffonné, disons ?
Alors, bon, je reviens pas dessus parce que je pense qu'on a compris, mais il y a cette histoire de la représentation des populations civiles. Bon, par exemple, on parlera jamais de Dresde dans cette série. Et surtout, il y a vraiment quelque chose qui m'a quand même pas mal chiffonné, c'est qu'à un moment donné, vous avez un des héros qui s'est écrasé, qui est capturé. Il n'est pas capturé, pardon. Il tombe du côté soviétique. Donc il est récupéré par les soviétiques et il y a un moment où il va dans un camp de concentration. Il se retrouve dans un camp de concentration et donc il voit ce qui... Voilà, ça fait lui un témoin de la Shoah. Et dans une scène un peu après, il y a un dialogue entre lui qui est donc revenu dans son unité et un autre des personnages principaux de la série où il y a ce personnage, un de ses, son copain, quoi, qui se dit « Non, mais quand même... Je me demande si ce qu'on a fait, c'était quand même juste, est-ce que c'était nécessaire ?» On parle notamment des dommages collatéraux. Et on a ce personnage donc, qui est témoin de la Shoah qui dit « Non, non, si, crois-moi, c'était absolument nécessaire. » Et là, c'est quand même un peu gênant. Je veux dire, on a quand même une série qui instrumentalise la Shoah pour, d'une manière ou d'une autre, justifier les campagnes de bombardement et justifier... Alors, pourquoi pas les campagnes de bombardement, mais pour justifier les dommages collatéraux, ça m'a un peu gêné quand même. Là, on est un peu dans une réécriture de l'histoire. C'est quelque chose qui m'a un peu énervé.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de corrélation historique entre la conscience de la Shoah, qui aura lieu notamment au moment de la découverte des camps, et les campagnes de bombardement stratégique qui vont ruiner des grandes parties de l'Allemagne, qui prédatent très largement, pas forcément la solution finale, mais en tout cas sa conscience générale en Occident, quoi.
Ouais, c'est un peu... Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y avait pas besoin d'aller vers ça. Ça, c'est un point sur lequel je voulais m'arrêter parce que ça m'avait un peu agacé. Après, moi, sur l'ensemble de la série, je trouve que elle a un peu un côté elle a un côté un peu album Panini, c'est-à-dire que on va vous parler de... bon, on va vous montrer un raid de bombardier, ok, ça c'est bon. On va vous montrer le passage dans les stalags, ok, ça c'est bon. Ensuite, on va vous montrer... il y a un petit passage sur où on voit un petit groupe d'équipage, un petit groupe qui est envoyé dans un établissement pour se reposer. Donc, on va nous parler... Là aussi, je trouve très, très rapidement de syndrome de stress post-traumatique, de traumatisme lié aux traumatismes que peuvent engendrer les bombardements sur les équipages, notamment le syndrome qu'ils appellent à l'époque de FLAC happy.
Donc FLAC, c'est la défense solaire, oui. La défense anti-aérienne, c'est canon. Et voilà, c'est le fait que pour les aviateurs qui passent au milieu d'un champ de FLAC, bon, ça peut être un peu traumatisant d'avoir les obus qui explosent partout autour de l'avion.
C'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans la série, comme quoi ils préfèrent faire face aux chasseurs de la louve à feu plutôt qu'au barrage de DCA. Mais là, c'est pareil, la caméra reste un peu à distance. On voit un homme qui vraisemblablement a un peu traumatisé. On le voit un peu en train de s'effondrer, en train de pleurer, mais on va pas vraiment plus loin. Là où le film dont je parlais tout à l'heure, 12 O'Clock High, prend le problème un peu plus à bras-le-corps. À une époque où l'armée américaine était très très réticente à montrer ça, il y avait eu, je crois, en 45 ou en 46, un documentaire qui s'appelait Let There Be Light, qui parlait de ça, du syndrome de stress post-traumatique, qui ne portait pas ce nom à l'époque, mais ça parlait de ça, sur tout un panel de soldats américains. Le documentaire a été censuré par l'armée américaine et je crois qu'il est ressorti au début des années 80. Donc c'est pour vous dire à quel point on était quand même sur un sujet qui était assez sensible. Et pourtant, on a ce film en 47-48 qui vraiment parle de ça. Alors il le fait de manière un peu particulière, mais pas comme on pourrait le faire aujourd'hui. Mais il en parle, c'est présent. Là, on reste toujours très à distance. On a évidemment la petite histoire de romance extra-conjugale entre un des personnages et une Britannique. Mais pareil, on va pas non plus aller chercher très très loin. Leur romance dure un petit moment, et puis voilà, ça s'arrête là. On va pas aller chercher plus loin. Là aussi, c'est dommage parce qu'à un moment donné, on apprend que ce personnage a une permission d'un mois ou deux pour rentrer aux États-Unis. Bon, ça aurait pu être l'occasion de poursuivre un petit peu l'arc et puis surtout de voir l'arrière, de voir un peu les États-Unis pendant la guerre. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Bon, là, on le voit pas. Il revient après, il dit « Ah oui, ça s'est très bien passé avec ma femme. D'ailleurs, je vais être papa. » Bon, très bien, tant mieux pour lui. Mais on va pas chercher à creuser plus loin. À un moment donné, pareil, toujours dans cet esprit un peu vignette, on a un équipage qui s'écrase et dont une poignée est récupérée par une résistance, c'est la résistance belge, je crois. Et parmi eux, d'ailleurs, on a dans les acteurs, je crois qu'on a le fils de Steven Spielberg qui joue un des deux acteurs. Bref. Et donc, on nous explique qu'ils vont devoir passer par la France, par l'Espagne, puis pour revenir. Donc on se dit, OK, on va donc voir ça. Et en fait, pas du tout. Les dernières fois qu'on les voit, ils sont dans un train à Paris et ils essayent de passer la sécurité à la gare. Et puis, vous ne les revoyez pas pendant deux ou trois épisodes et vous les voyez un moment réémerger. Ah, au fait, on est rentré, ça s'est bien passé, mais là, on va rentrer aux États-Unis parce que...
Vous voulez dire que, du coup, ça va un peu vite. Ils ont essayé de mettre plein de choses et de faire une sorte de maxi best-of de tout ce qu'on peut dire sur ce que ça a été que les aviateurs dans la Seconde Guerre mondiale.
Un petit peu, et ça rejoint un peu ce que vous disiez en début d'interview, c'est-à-dire que... Bah, peut-être que le matériau de base qui est le raid de bombardier, c'est un peu compliqué à représenter. C'est un peu compliqué de tenir toute une saison. Il y a combien ? Il y a 8 ou 9 ?
9 épisodes, je crois.
C'est compliqué de tenir même une mini-série avec ça. Donc on va se disperser, on va aller chercher un peu d'autres choses. On va parler des Tuskegee Airmen, c'est-à-dire des pilotes noirs américains pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, bah ça, mais c'est terrible, parce que c'est globalement la partie la plus palpitante. C'est le moment où on sort un peu des bombardiers. Alors, je veux pas dire que c'est pas palpitant, parce que notamment dans les premiers épisodes, on est bien dedans.
Il y a des belles scènes, même ne serait-ce que la scène où on voit leur transition, leur transit, où ils passent par le Groenland et où il y a un posé qui est quand même un peu difficile.
Mais cela dit, c'est très répétitif, quoi. Il y a un gros raid, et ensuite, le gros raid, les avions tombent les uns après les autres. Alors, des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins.
Mais il y a ce côté incertitude.
Généralement, il y a un personnage qu'on aime bien qui finit par disparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Bon, ok. C'est juste, mais en même temps, c'est ce qu'ils décrivent. Hein. Enfin, je sais pas, je pense notamment à Romain Gary qui a fait ses missions pour la RF, qui décrit tout à fait ça. C'était chiant. Enfin, ça, c'était chiant.
Côté très répétitif.
C'est hyper répétitif. C'est voilà, on est en transit, on arrive au-dessus de l'Allemagne. Enfin, on passe par la France. Il y a des moments où il y a la flak, et ensuite il y a les chasseurs qui décollent. Puis quand il y a les chasseurs, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on faut prier et puis espérer avoir un bon mitrailleur sur la tour à l'arrière. Bon,
dans la tourelle ventrale, là, qui a l'air vraiment d'être une position, poste absolument abominable.
On est vraiment dans une bulle, quoi.
C'est une boîte de conserve dans une boîte de conserve, quoi. Ça a l'air d'être vraiment atroce.
Avec en plus une cible bien apparente pour les Messerschmitt. Donc voilà, c'est pas que c'est inintéressant, c'est que c'est un peu répétitif. Et effectivement, il y a un ou deux épisodes où il y a les Tuskegee Airmen qui sont donc ces pilotes de chasse, pour le coup, noirs. Voilà, pareil, c'est ce que vous disiez un peu, il y a le côté Maxi Bestov, c'est-à-dire il y a aussi la problématique raciale au sein de ce qui deviendra l'Air Force, qui est un vrai problème et dont ils essaient de parler.
On en parle.
Mais le fait est que c'est un peu plus marrant quand il y a des avions de chasse, parce que ça va un peu plus vite et c'est un peu plus excitant.
On change d'air, en plus on voit le débarquement en Provence, qui est quand même un événement qu'on ne voit quasiment jamais représenté au cinéma ou à la télévision. Donc là, on voit le débarquement, on voit le débarquement en Provence. Et oui, c'est vrai que cette parenthèse sur les Tuskegees, donc sur les Red Tails, qui ont déjà eu plusieurs films qui leur ont été consacrés, dont un qui avait été produit par George Lucas sur ses fonds personnels, il y a quelques années de ça, qui s'appelle Red Tails.
De toute façon, non. Mais bon, après, les fonds personnels de George Lucas sont assez épais.
Maintenant, ils sont... Je sais plus si c'était... Je sais plus si c'était avant ou après la revente à Star Wars. Bref,
de Star Wars à Disney.
Bref.
Bref, merci à George Lucas, on s'en fait pas pour lui.
Voilà, merci George Lucas, qui va être honoré au Festival de Cannes. C'est bien mérité. Ce que je voulais dire, c'est que cette parenthèse des Tuskegee Airmen, elle est à la fois pas mal parce qu'elle renouvelle un peu l'intérêt pour la série, on change de décor, on voit d'autres personnages. Mais d'un autre côté, ça fait vraiment parenthèse. Et encore une fois, on a l'impression de dire « Ah bah voilà, il fallait cocher la vignette, il fallait cocher cette case-là, donc bon, bah c'est bon, on l'a coché. » Et puis voilà, donc on revient, oui, sur les problématiques qu'ont pu connaître ces pilotes, mais forcément, on a ça que sur un épisode, donc forcément, c'est très factuel et c'est pas forcément creusé, c'est pas forcément mis en avant. C'est un peu dommage d'ailleurs, puisqu'ils ont pour réaliser cet épisode, ils ont fait appel à une réalisatrice noire américaine, donc pour essayer, je pense, de capter un peu cette sensibilité là. Bon, pas vraiment. Et puis avec les scènes du stalag, bon bah. Ouais, c'est ok, il fallait cocher la case. Bon, après, ça s'est vraiment passé, donc ils étaient un peu obligés de passer par là. Mais ouais, voilà, il fallait cocher cette case du stalag. Mais en fait, dans le camp de prisonniers, il ne se passe pas énormément de choses. Alors, on essaye de nous créer un espèce de mini-enjeu autour d'un poste radio qu'il faut réparer pour avoir la connexion avec le monde extérieur. Bon, c'est pas super intéressant. Puis après, on a une espèce de concurrence entre les deux personnages, entre celui qui veut s'évader, celui qui veut pas, parce que c'est hyper risqué.
Non, mais là, c'est vrai que la mayonnaise ne prend pas forcément, mais c'est pas aussi parce qu'ils ont, ils ont mis quand même pas mal de personnages qui sont un peu séparés. C'est une histoire qui prend pas forcément.
En fait, le truc, c'est que par rapport à Band of Brothers, par rapport aux souvenirs que j'en ai, parce que j'ai vu la série il y a 20 ans, l'avantage de Band of Brothers, c'est qu'il y a une espèce d'unité de comment on pourrait appeler ça, une espèce d'unité de dispositif, de lieu, qui est le groupe, le Band of Brothers, quoi, qui est la Easy Company. On reste focalisé sur cette Easy Company qui reste un groupe uni, qui se déplace un peu en même temps, qui est aux mêmes endroits, etc. Là, dans le Masters of the Air, très rapidement, les personnages principaux suivent des lignes, suivent des trajectoires différentes. Il y en a qui poursuivent leur mission, il y en a qui s'écrasent et qui sont capturés ou qui doivent échapper aux Allemands via la résistance. Il y en a un qui est le navigateur et qui est, je crois, le narrateur de la série d'ailleurs. Ouais. Le navigateur qui, lui, passe en état-major. Donc voilà, assez rapidement, on a ce côté un peu éclaté fait que la série est un peu difficile à suivre.
Pour le coup, là, ça ressemble un peu à The Pacific, où c'était vraiment trois destins qui se croisaient ponctuellement, mais qui étaient vraiment fonctionnellement très séparés. Et d'ailleurs, où je pense que, un peu comme vous, que ça marchait déjà moins bien que pour Band of Brothers.
Je disais, je ne l'ai pas vu pour le coup.
Mais enfin, il y a quand même un point que j'aimerais souligner, qui est que c'est un... Comme dans les deux autres, comme dans The Pacific et Band of Brothers, c'est une série qui quand même travaille un peu le thème du mauvais commandement.
Oui.
Et ça, c'est toujours intéressant. Et du mauvais commandement, souvent pour des raisons, alors soit personnelles, mais là, on ne le voit pas vraiment, mais plutôt pour des raisons organisationnelles. Là, ça apparaît notamment avec la figure qui est une figure de plus en plus célèbre, qu'on retravaille, de Curtis LeMay, qui est un colonel de l'US Air Force, qui est un peu au centre de ce qu'on va appeler la Bomber Mafia. C'est un livre assez récent de Malcolm Gladwell qui a plein de défauts. Pas mal
controversé. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre qu'il était très controversé.
Malcolm Gladwell, qui est le producteur d'un podcast merveilleux qui s'appelle Revisionist History, mais qui a sorti ce livre. Le livre est historiquement douteux, mais en tout cas, il a beaucoup travaillé ce thème. Il en a fait une saison, d'ailleurs, de Revisionist History, que je recommande. De la Bomber Mafia. C'est-à-dire ce moment où il y a un petit clan dans l'US Air Force qui va vouloir absolument plaider pour les bombardements stratégiques, puis ensuite pour l'emploi du napalm, etc., etc., etc. Bref, c'est un personnage qu'on retravaille un peu depuis quelques années, Curtis LeMay. Là, il est absent, si ce n'est... absent, mais présent nominalement.
On parle de lui beaucoup, mais on le voit jamais.
On parle globalement pour dire que c'est un allumé qui prend des décisions assez irrationnelles. Et voilà, c'est quelque chose qui...
Je me demande si ce n'est pas une référence au personnage de Montgomery. Là. J'y pense tout de suite, là. Je me demande si ce n'est pas une référence au personnage de Montgomery dans Un pont trop loin... Personnage dont on nous parle tout le temps dans Un pont trop loin, mais qu'on ne voit jamais à l'écran. Je me demande s'ils n'ont pas essayé de faire quelque chose un peu dans cet esprit-là.
Peut-être. En tout cas, c'est le... Mais c'est intéressant parce que c'est là que c'est pas un film, enfin, ou des séries qui font la propagande glorieuse de l'armée. Enfin, c'est pas le soldat Ryan, quoi. Il y a un truc vraiment de... On travaille le fait qu'il y a plein d'insuffisances et que les armées américaines ne sont pas une machine qui roule parfaitement bien et qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites et qu'à chaque erreur qui est faite, il y a des gens qui vont au carton. Et les groupes de bombardiers, ils ont eu beaucoup de pertes. Et d'ailleurs, c'est pas mal souligné dans le film.
C'est bien souligné. On voit bien que les jeunes équipages qui arrivent en Angleterre, leur existence est plus ou moins éphémère. On nous le fait comprendre. On nous fait comprendre aussi un peu le cynisme de la stratégie américaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un des personnages où il a fait ses 25 missions. Donc 25 missions, il est normalement éligible à pouvoir rentrer aux États-Unis et à quitter le service. Mais c'est quelqu'un de très engagé, donc il veut re-signer pour refaire 25 missions. Et son chef lui dit « Non, mais vous devez savoir qu'en fait, la stratégie a changé et que, en fait, les bombardements, c'est pas ça le vrai sujet. Ce qu'on veut faire, c'est que on veut se servir des bombardements pour épuiser la Luftwaffe. Et donc, vous devez savoir ça. » Et c'est intéressant parce que on nous dit qu'il y a quand même un certain cynisme il y a un vrai cynisme dans cette stratégie. On nous explique que, en fait, ces jeunes équipages-là, ils vont servir d'appât pour la Luftwaffe, pour pouvoir l'épuiser, mais que finalement, les bombardements, en tant que tels, c'est pas ça qui nous intéresse en premier lieu. Mais là, c'est pareil, la série creuse pas vraiment ce truc-là. À la fin, on nous justifie comme quoi les bombardements, c'était bien, il fallait le faire. Ouais. Alors que quelques épisodes avant, on nous a dit que, en fait, tout ça, c'est très cynique, parce que le véritable but, c'est d'aller épuiser la Luftwaffe.
Et un point aussi, c'est dans les premiers épisodes où il y a un point dont je me suis demandé l'exactitude historique, c'est on les voit parler, d'ailleurs, se filer quelques coups de poing avec des aviateurs britanniques
dans un
épisode, et où il y a tout un débat, toute une controverse sur le fait que les Américains bombardent la journée
alors que les Britanniques bombardent la nuit,
et que c'est pour ça qu'ils se font cartonner beaucoup plus et qu'il va falloir changer ça, mais que le haut commandement, et probablement Curtis LeMay, est trop con pour comprendre ça, ou en tout cas qu'ils n'ont pas envie de changer leur doctrine, et que c'est ça qui explique des taux de pertes monstrueux des équipements américains. Je me suis demandé si c'était exact, c'était pas exactement l'image que j'avais de cette notion-là. Mais peut-être en même temps que c'est des phases et que ça a changé, je sais pas si...
Alors, c'est présenté comme ça dans la série, c'est-à-dire que les Américains bombardent de jour parce que c'est plus précis mais la contrepartie, c'est qu'ils subissent des pertes beaucoup plus élevées. Et la Royal Air Force, elle, bombarde de nuit parce que c'est moins dangereux. Mais la contrepartie, c'est qu'elle est plus vulnérable. Elle est pas plus, non, elle est moins précise, voilà ça. Et ils font ce qu'ils appellent le bombardement de zone, le area bombing. Donc, c'est-à-dire vraiment, on ratiboise de larges parties du territoire. La série nous présente ce truc-là. Alors bon, c'est un peu c'est fait de manière très littérale. Et puis donc
c'est-à-dire c'est un peu contradictoire parce qu'en fait on sait que c'est les Américains qui font aussi le area bombing. Enfin, c'est-à-dire c'est pas comme si l'US
Force. C'est un peu hypocrite. Et puis en plus on a ce pilote américain et un pilote de la Royal Air Force qui disent non, on n'est pas d'accord, donc on va se battre, on va en venir au point. C'est l'aviateur américain qui gagne. Donc on se dit donc en fait la série est en train de nous dire que c'est les Américains qui avaient raison par rapport aux Anglais qui avaient tort. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Moi, je trouve que même s'il y a des critiques sur le commandement et les choix stratégiques qui sont en filigrane dans cette série, je trouve que globalement, on reste quand même un peu dans la géographie de ce que les Américains appellent la Greatest Generation, c'est-à-dire la génération qui s'est battue pendant la Seconde Guerre mondiale. On reste dans la géographie de ces pilotes qui globalement sont quand même un peu tous des Boy Scouts. Même à un moment donné, vous avez ce personnage-là qui est envoyé en centre de... Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais bon, bref, c'est le centre dont je parlais tout à l'heure pour que les pilotes se remettent un petit peu en forme. Et lui, il dit non, mais moi, ça sert à rien d'être là. Moi, je suis là pour la mission et il faut absolument... Et je dois continuer à tout prix. Ça aurait été intéressant de montrer, OK, c'est quoi le management, c'est quoi le style de commandement de cette personne-là. Mais la série n'en fait rien et je trouve que c'est un peu dommage d'être resté sur ce côté hagiographie des combattants dans la Seconde Guerre mondiale et de pas être allé chercher un petit peu plus loin. Même dans Il faut sauver le soldat Ryan que vous citiez là à l'instant, à un moment donné, après la scène du débarquement, on voit des soldats américains commettre des crimes de guerre en exécutant des prisonniers allemands. Là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Le soldat américain, il est très valeureux, il est très il est tout entier consacré. Bah,
c'est-à-dire
à son
que là,
devoir.
Il commet plein de crimes de guerre, mais vu que c'est la mission explicite des bombardiers, c'est un peu compliqué.
Et puis on nous la justifie.
C'est un peu compliqué, quoi.
On nous la justifie. Donc,
quand on rase la moitié de Dresde et de Trouville allemande, techniquement, c'est un peu des crimes de guerre, mais bon, c'est pas pitché comme ça.
Et on ne voit que des villes allemandes. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand on parle de bombardement de centres urbains, ce ne sont que des centres urbains allemands. On vous parlera jamais du bombardement de la France, par exemple. Alors qu'en termes de ressentiment de la population, la France, il y a quand même des choses sur le ressentiment de la population française vis-à-vis des bombardements américains. Vous ne verrez jamais d'autres villes que des villes allemandes se faire bombarder. Quand on nous parle de bombardements aux Pays-Bas ou ailleurs, c'est toujours une base, c'est un site stratégique, c'est jamais une zone urbaine. Et quand on nous filme une zone urbaine se faire bombarder, et je crois que c'est dans, je sais plus si c'est dans le film où on nous parle du bombardement sur Schweinfurt, et ben vous voyez la caméra qui se met dans le viseur Norden et vous voyez toutes les bombes qui tombent bien à l'intérieur de la zone industrielle. Ça tombe pas à côté, ça tombe bien dans la zone industrielle. Bon.
Ouais, non, mais disons-le, c'est pas... Voilà, c'est faux.
Ah oui, c'est faux.
Faut le préciser, c'est historiquement faux.
Voilà, oui, non, c'est
tout.
C'est
Américains ont eu la main très lourde et c'est même toute la théorie du bombardement stratégique. Alors on va pas faire de la théorie de la puissance aérienne et... Julio Douet, tout ça, mais enfin, c'est très explicite. C'est pourquoi Curtis Lemay et la Bomber Mafia veulent bombarder les zones civiles et les zones urbaines. Ils veulent faire peser le poids de la guerre sur les Allemands. Après, on peut décider 80 ans plus tard que ça valait le coup et que c'est peut-être des crimes de guerre, mais pas si grave que ça. C'est techniquement des crimes de guerre et historiquement totalement documenté et c'est absolument incontestable. Et en même temps, c'est tout à fait euphémisé là-dedans. Il reste une série qui, visuellement, en tout cas, je la trouve assez impressionnante, notamment les premiers épisodes. Je trouve que c'est aussi un assez bon état de l'art de ce qu'on est capable de filmer aujourd'hui comme combat aérien.
Tout est en images de synthèse, pour le coup. Il n'y a pas eu de vrais bombardiers qui ont été utilisés, tout se fait en images de synthèse. Oui, de manière générale, c'est plutôt très réussi, très bien filmé. Il y a quelques points où je suis un peu plus réservé, notamment la partie où ils arrivent en Afrique. Là, je trouve que la manière dont ils ont, les décors africains, c'est très bizarre, c'est pas très joli. Le générique n'est pas très joli. Le générique de cette série n'est pas très joli. On a aussi une série qui, dans les passages qui ne se passent pas dans les airs, va rechercher une esthétique assez proche, assez propre au cinéma américain des années 40, avec ses teintes très chaudes des intérieurs que cette série essaye de reproduire, qu'on voit dans beaucoup de films qui essayent qui parlent de Seconde Guerre mondiale, ces teintes de couleurs, cette façon de filmer, la fumée qu'on voit qui stagne en haut au niveau des plafonds dans les pièces. C'est assez typique de ce genre de cinéma-là, et la série essaye de reproduire ça. Mais moi, au final, même si j'ai bien apprécié cette série, puisque c'est Spielberg, elle me fait penser un peu à... Vous savez, c'est un peu le moustique de Jurassic Park, vous voyez ? Le moustique de Jurassic Park, c'est-à-dire qui est prisonnier, qui est fossilisé dans cette ambre, cette chose du passé qui est fossilisée dans cette ambre, qui est un peu là... pour faire un petit ornement et dont on aurait prélevé l'ADN pour faire revivre quelque chose du passé. Voilà, cette série, elle a quelque chose du moustique de Jurassic Park, quoi.
Merci beaucoup, Tony Morin.
Avec plaisir.
Je rappelais donc les références du colloque et puis des actes du colloque que vous aviez dirigé qui traitent évidemment pas de la série, mais plus généralement de l'interaction entre l'arme aérienne et la culture, donc fait aérien, arme aérienne et culture, qui est paru à la Documentation française en 2021.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.